Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. C'est ainsi qu'Élie, le prêtre du temple, enseigne le petit Samuel pour lui dire comment il devra répondre à Dieu quand celui-ci l'appellera. C'est un enseignement qui lui est donné. Et cet enseignement nous concerne tous, à tout instant, parce que je crois qu'il y a là une des leçons les plus fondamentales concernant la prière, concernant le mode de relation que nous pouvons, ou peut-être devons, avoir avec Dieu. Et en effet, c'est peut-être ça la question. Si tout à coup, vous pouviez être en face de Dieu, si tout à coup vous étiez là, face à Dieu, Dieu est là, vous pouvez lui parler, il vous écoute, il vous parle, vous pouvez l'entendre, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, je pense que nous, la plupart d'entre nous, aurions tendance à réclamer plein de choses, à lui demander plein de choses. Nous avons plein de réclamations, plein de remarques, plein de demandes, bien sûr. Et pourtant, on voit là que Élie dit à Samuel que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire, et que la base même de la prière, ce n'est peut-être pas d'adresser à Dieu une liste de réclamations, ni de lui dire « Ah tiens, puisque tu es là, je vais te demander un certain nombre de choses et j'ai des choses à te dire », mais que la chose la plus fondamentale que nous pouvons faire avec Dieu, si nous sommes en relation avec lui, eh bien c'est de l'écouter, c'est de l'entendre, de se mettre à son écoute, effectivement. Et je crois que ça, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire parce que, même pour nous aujourd'hui, beaucoup de croyants aujourd'hui sont persuadés que prier, c'est bombarder Dieu de paroles. En fait, prier, ce n'est pas bombarder Dieu de paroles et de demandes, ni de réclamations, mais prier, c'est l'écouter. C'est non pas dire « Seigneur, fais ceci, fais cela », c'est-à-dire le mettre à notre service, mais prier, c'est peut-être se mettre soi-même au service de Dieu. Et donc, vous voyez, quand Samuel dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », nous avons tout l'essentiel, je crois, de l'attitude la plus juste qui soit par rapport à Dieu, de se dire que c'est à nous d'écouter Dieu plus que le contraire, et c'est à nous de servir Dieu plutôt que l'inverse. Et je crois même que c'est une des choses les plus essentielles de la foi, dirais-je. Et c'est, je dirais aussi, le passage de l'idolâtrie à la foi d'Israël. Ce passage, on le voit dans la vocation d'Abraham. En effet, on dit en général qu'avant Abraham, on était dans une sorte de religion idolâtre. L'idolâtrie, eh bien, c'est une religion qui fonctionne un petit peu comme fonctionnent les religions primitives, avec des sorciers. Et l'idée, c'est qu'il faut essayer d'obtenir quelque chose de la part de la divinité. Et donc, le culte consiste à essayer d'obtenir des choses de la divinité qui est toute puissante et qui peut donner les choses, mais qui ne le fait que si elle le veut bien. Et donc, l'idolâtrie, les religions primitives, vont mettre en place une sorte de culte qui consiste à essayer de négocier avec la divinité. Et donc, on va, grâce aux prêtres, obtenir des faveurs de la part de la divinité. Mais comme les divinités idolâtres sont à l'image de l'homme, elles ne font rien sans rien, et ni certainement pas gratuitement. Et par conséquent, toute la religion va consister à essayer d'échanger, de négocier, de faire une sorte de troc. Et donc, on va dire, voilà, ô Dieu, je voudrais alors la fécondité pour mon épouse, une victoire dans les guerres et les batailles, de la pluie pour les récoltes, ou la santé pour ma famille, je ne sais quoi, pas d'épidémie. Et donc on demande des choses à la divinité et on paye en échange. Alors on paye par des sacrifices, par des vœux, par des pratiques, par des prières, par des choses dont on se prive et des choses comme ça. Donc ça, c'est la religion idolâtre, où effectivement la divinité est celle à qui on réclame des choses. C'est celle dont on se sert et on essaye d'obtenir ce que l'on veut de la part de la divinité en payant. C'est ce que vous faites quand vous avez besoin d'un garagiste ou d'un plombier. Vous payez le plombier pour qu'il répare votre baignoire. Eh bien, la divinité, c'est un peu une sorte de super plombier qui peut vous offrir plein de choses. Et puis voilà que Abraham rentre dans l'histoire. Et là, tout est à l'envers. Parce que Abraham ne réclame rien à Dieu, c'est Dieu qui réclame. Et contre rien, Dieu ne lui promet rien. Simplement, Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays et tu vas là où je te dirai. Abraham ne sait pas où, il ne sait pas ce qu'il y fera, il ne sait pas ce qu'il gagnera. Et Abraham, sans rien réclamer, sans rien demander, y va. Et là, pour la première fois, nous avons une relation totalement inversée avec Dieu. Ce n'est pas Abraham qui réclame à Dieu d'être à son service, c'est Dieu qui réclame à Abraham d'être à son service. Ce n'est pas Abraham qui demande, c'est Dieu qui demande. Ce n'est pas Dieu qui obéit au fidèle, c'est le fidèle qui obéit à Dieu. Et je crois que c'est une révolution considérable, une révolution considérable. Mais malheureusement, nous avons tous tendance à retomber dans l'idolâtrie. Et finalement, bien souvent, même dans nos pratiques, nous ne valons pas toujours mieux que, je dirais, les tribus de sauvages qui font des danses de la pluie pour obtenir les bonnes volontés de leur divinité. Et donc, je crois que, vous voyez, la leçon de Samuel, pour moi, est une des plus grandes choses qui soient, parce qu'on lui apprend, justement, que la juste relation à Dieu, c'est de lui dire, « Seigneur, je t'écoute et de lui dire « Je suis ton serviteur ». Et être serviteur, je crois que c'est bien parce que d'abord être serviteur de Dieu, c'est une bonne chose. Parce que je crois que Dieu, c'est l'idéal. Dieu, c'est ce que l'on veut pour le monde. C'est-à-dire, c'est la paix, l'amour, la joie, la fraternité, le service. C'est tout cela, Dieu. Et dire « Je veux être au service de Dieu », c'est dire, voilà Seigneur, me voici, je suis ton serviteur, pour essayer d'être dans ce monde au service de l'amour, de la paix, du pardon et de la fraternité. Et donc c'est se mettre soi-même, effectivement, au service de Dieu, et se dire que ce que j'attends de Dieu, c'est en fait à moi de le faire, c'est à moi de servir Dieu. Et être serviteur, c'est, je crois, en y réfléchissant bien, vraiment l'attitude essentielle et fondamentale que l'on trouve un petit peu partout dans l'Évangile, dans la prédication du Christ. Le Christ n'arrête pas de dire ça. Il dit bien sûr qu'il faut s'aimer les uns les autres. On en est tous persuadés. Le problème, c'est que nous ne savons pas très bien ce que ça veut dire qu'aimer l'autre. Surtout qu'à force de généraliser et de dire qu'il faut aimer son prochain comme soi-même et que le prochain, c'est je ne sais pas combien de milliards d'êtres humains, bon, je ne peux pas aimer tout le monde, à la fois ma femme, mes enfants et le Chinois à l'autre bout de la terre que je n'ai jamais vu, dont je ne connais pas le nom. Et donc, du coup, ce commandement d'amour devient presque inefficace pour nous. Alors que le commandement que donne le Christ de servir, ça, c'est concret. Et ça, c'est réel. Et je vois très bien ce que ça veut dire. Quand il dit « Soyez serviteurs les uns des autres », là je sais ce que ça veut dire, être au service. Et quand il dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur », là je comprends ce que c'est. Et être serviteur, je crois que c'est peut-être finalement le commandement le plus réaliste, le plus simple, le plus clair, le plus évident que donne le Christ, et peut-être certainement l'un des plus essentiels, et un de ceux qu'on a un peu tendance à oublier peut-être. Alors déjà, être serviteur, c'est merveilleusement efficace. Parce que être serviteur, cela veut dire que l'on est actif et non pas que l'on est passif à attendre que les choses se fassent toutes seules. Déclarer soi-même serviteur, c'est dire justement, je n'attends pas des autres, mais je fais moi-même. Le serviteur, c'est celui qui agit, celui qui se prend en main, lui-même. Et ça, c'est avoir une position active, par opposition, je dirais, au pacha qui reste dans son grand lit d'oreiller à attendre que les choses se fassent toutes seules, eh bien moi, non. Je ne suis pas sur terre pour être un pacha, je suis là un serviteur. Et moi, j'agis, je voudrais agir ou je veux agir. Et je crois que l'homme est justement celui qui est actif. Et c'est celui-là qui est le plus grand. Le Christ a raison. Non pas celui qui attend qu'on le serve. Bien sûr, celui qui attendrait que les autres le servent, ni même celui qui attendrait que Dieu le serve. Et être croyant, ce n'est pas se dire « Oh ben je ne fais rien, mais Dieu me servira. » Ah ben bravo. Ce n'est pas ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est « Eh bien moi, je vais me mettre au service de ce en quoi je crois. » Le serviteur, c'est celui qui agit, vous disais-je, et puis l'Évangile nous donne aussi une promesse. La promesse, c'est que ce service, c'est la base du bonheur. Et je le crois aussi. Vous savez, dans l'Évangile de Jean, Jésus donne un exemple de service en lavant les pieds de ses disciples. Et il conclut en disant « J'ai fait cela pour vous donner un exemple, afin que vous le fassiez les uns aux autres. » Et dit-il « Vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Eh bien, je crois que c'est très vrai. Être serviteur, c'est être heureux, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que quand on donne, eh bien, donner ne dépend que de soi, alors que recevoir, ça dépend des autres. Et donc, le serviteur, certainement, est le plus heureux, je le crois, et en plus, c'est celui qui est le plus libre. Alors là, c'est un paradoxe qui a été développé très largement par Hegel, le grand philosophe. Ce paradoxe, je l'aime beaucoup, et je crois que Hegel dit là quelque chose d'extrêmement vrai. Et c'est connu en philosophie sous le nom de la dialectique maître-esclave. Et la dialectique maître-esclave de Hegel, c'est de dire, on croit que l'esclave est le moins libre et que c'est le maître qui est libre, et dit Hegel, c'est tout le contraire. C'est l'esclave qui est libre et c'est le maître qui ne l'est pas. Parce que l'esclave peut se passer de son maître, alors que le maître ne peut pas se passer de l'esclave. Et ça, c'est très juste, effectivement. Celui qui veut que les autres soient à son service est condamné à être malheureux, condamné à être frustré, condamné à être déçu. Parce que les autres ne font jamais ce qu'il faut, les autres ne sont jamais là quand on a besoin d'eux, et les autres ne sont jamais comme on aimerait qu'ils soient. Et donc celui qui attend d'être servi pour être heureux ne le sera jamais. Alors que servir, on peut toujours le faire, et à sa manière. Et donc c'est beaucoup mieux. Quand on attend un service de quelqu'un, je vous disais, on est condamné à être déçu, parce que le serviteur fera toujours trop par-ci, ou pas assez par-là, ou pas comme on l'attendrait. Et par conséquent, effectivement, je crois que le maître est bien dépendant du service de son esclave, alors que l'esclave n'a rien à attendre du maître, il est donc bien le plus libre et le plus heureux. Et ça, c'est quelque chose qui est, je crois, très juste. Vous pourrez le décliner dans des tas de domaines. Je me contenterai de le faire par rapport à l'Église, puisque c'est mon domaine à moi. Et je pense qu'effectivement, dans le rapport que nous avons à l'Église, si nous pensons que l'Église est à notre service, ou celui qui croit que l'Église est à son service, alors il est forcément déçu. Parce que l'Église dans laquelle vous entrez ne correspondra jamais à la vision personnelle que vous avez. Et l'Église ne peut jamais correspondre à l'attente personnelle de chacun des paroissiens. Il ne pourra jamais donner à chacun des paroissiens ce qu'il attendrait. Alors évidemment, si l'on considère que l'Église doit être à notre service, on est forcément déçu parce qu'elle n'est pas assez ceci, pas assez cela, trop ceci, trop cela, parce que le pasteur ne fait pas assez de ceci ou de cela, qu'il fait trop de visites ou pas assez, qu'il parle trop d'une chose ou pas assez d'une autre, qu'il est trop gentil ou pas assez gentil. Bref, ça ne peut jamais fonctionner. Mais voilà, l'Église n'est pas une station-service. Et la lettre de l'étoile n'est pas l'officiel des spectacles dont on se dit, tiens, est-ce que ça me convient, ce que l'on sert aujourd'hui? Mais l'Église, ce n'est pas un lieu de consommation. L'Église, c'est vous. L'Église, c'est ceux qui en font partie. C'est ceux qui y viennent. Et l'Église n'est pas une société qui sert des gens qui viendraient consommer. L'Église, elle est faite de ceux qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a là un curieux paradoxe, que l'Église est ce que ceux qui viennent en font. C'est un peu comme, je dirais, une sorte d'auberge espagnole, effectivement, où le menu, eh bien, c'est ce qu'on apporte. Alors donc, il n'y a pas à l'Église, ce n'est pas à l'Église de se mettre au service des paroissiens, mais c'est à chacun de se mettre au service de l'Église. Ou peut-être que c'est dans l'Église que chacun peut se mettre au service des autres. Et pour prendre un cas encore plus particulier, je dirais, si Si quelqu'un, par exemple, dit « Tiens, mais je trouve que l'Église ne m'a pas assez bien accueilli quand je vais au culte. Ben, » L'Église, c'est quoi ? C'est qui ? Eh bien, c'est vous. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'accueil ? Eh bien, accueillez ceux qui viennent. Parce que de toute façon, le seul moyen, je vous dis, d'être heureux, c'est de donner ce que l'on veut trouver soi-même. Le meilleur moyen de ne pas être déçu, c'est de donner et non pas d'attendre et de recevoir. Et quant au reste, eh bien, nous devons prendre tout ce qui nous est donné comme une grâce et non comme un dû. Et ça, c'est une des grandes vérités de la vie. Et mon expérience pastorale me montre que c'est plus ou moins facile suivant, je dirais, son niveau social. Et en effet, c'est très difficile de considérer les joies, les chances, comme des grâces. C'est très difficile quand on est trop servi dans la vie, c'est-à-dire quand on est trop pauvre ou trop riche. Ceux qui sont trop pauvres ont du mal parce qu'ils risquent de devenir exigeants. Et les trop pauvres risquent de considérer que c'est les autres qui doivent tout leur donner. Et par conséquent, les autres ne donnent jamais assez. On devrait donner ci, on devrait donner ça, et moi qui si peu, les autres devraient m'aider, ils devraient m'accompagner, ils devraient me soutenir. Et à ce moment-là, ceux qui sont trop pauvres ont beaucoup de mal à comprendre justement que, si pauvres qu'ils soient, il y a peut-être en eux une richesse, quelque chose que eux peuvent donner aux autres, et que le sens de leur vie sera trouvé le jour où c'est eux qui donneront le peu qu'ils ont ou le rien qu'ils ont, parce que le rien n'est jamais rien. Quant à ceux qui sont trop riches, c'est compliqué pour eux aussi, parce que ceux qui sont trop riches ont l'habitude d'être servis. Et donc, ils ont l'habitude que tout soit toujours impeccable, que tout soit parfait. Et si ce n'est pas bon, au restaurant, on renvoie le plat. C'est pas chaud, c'est pas cuit, c'est pas assez ci, pas assez ça. Et ces gens-là, quand ils viennent au culte, ou quand ils me demandent un service pour un mariage, un enterrement, un baptême, ces gens-là sortent toujours malheureux. Parce qu'ils disent « Oui, j'avais demandé à ce qu'on passe telle musique et c'est une autre. Oui, j'aurais voulu qu'il y ait telle fleur et ça n'a pas été. Vous avez oublié de parler de ceci. Vous n'avez pas dit le mot sur ma mère. Et puis, c'était pas assez, le chauffage était trop froid. Et la lumière éclairait mal. Ça ne va jamais. On n'est jamais heureux. » Et quel bonheur quand j'ai affaire, effectivement, parfois, à des classes modestes. Des classes modestes sont des gens qui sont pleins d'humilité. Ils ont l'habitude que sans arrêt, la vie les contrarie. Et que les choses ne soient pas comme elles voudraient. Et ils viennent, ils demandent un service. J'ai bien conscience que le service que l'Église leur rend n'est pas parfait, mais ils disent « Merci, monsieur le pasteur, ça a été un moment extraordinaire. » Oui, bon, bien sûr. Ils disent même pas mes mots « bon, bien sûr ». Et je pense qu'ils ne le pensent même pas, parce qu'ils savent effectivement prendre les choses comme une grâce. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Et donc, c'est ça l'essentiel, effectivement, c'est de ne pas vivre sa vie comme un consommateur exigeant, que ce soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'Église, ou même vis-à-vis de Dieu, mais au contraire, de vivre sa vie comme un serviteur. Et en plus, nous avons de la chance parce que, quand on dit qu'on veut servir Dieu, on sert un maître qui a plein d'idées pour nous, plein d'idées pour le monde, et qui en plus, Dieu est un gentil maître, parce qu'il ne nous punit pas, il ne nous gronde pas, il nous aime, il nous soutient, il nous donne tout par grâce. Alors vraiment, je trouve qu'on aurait, je dirais, mauvaise grâce à être jugeur et à être négatif à l'égard de ce maître. Et il n'y a vraiment pas de plus grande joie et de plus grande chose que de vouloir servir un Dieu pareil. Parce que de toute façon, Dieu ne nous doit rien. Ni le bonheur, ni la santé, ni le travail. Et la vie non plus ne nous doit rien. Personne ne nous doit rien. Et l'Église non plus ne nous doit rien. Et les autres non plus ne nous doivent rien. Ça, c'est l'essentiel. Tout est grâce. C'est le secret de la vie heureuse. Tout est grâce dans notre vie. Tout est grâce dans notre relation aux autres. Tout est grâce dans notre relation à Dieu. Celui qui a compris ça, je crois, a compris la plus grande chose de la vie, de la foi, de l'amour. Et c'est toujours le problème, je vous disais, de savoir si l'on est consommateur ou acteur, si l'on est serviteur ou si l'on veut être servi. Et la leçon d'Élie, la leçon qu'Élie donne au petit Samuel, est donc une des plus grandes leçons qui soit, la meilleure leçon de vie chrétienne aussi. Et cette juste attitude, elle se tient dans ces six mots qui sont dits. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Parle, ça c'est la seule demande que nous pouvons faire à Dieu. Que Dieu nous parle. Comprendre que Dieu est parole, que Dieu n'est pas un acte magique. On ne dit pas à Dieu « fais-moi ci, fais-moi ça », mais « Seigneur, parle ». J'ai dit qu'il fallait écouter, mais on peut demander à Dieu. Mais ce qu'on lui demande, c'est de parler, de nous faire comprendre, de nous faire grandir, de nous éduquer, de nous instruire, de nous appeler, de nous convaincre peut-être. Dieu, effectivement, n'est pas un acte magique dans le monde, mais Dieu est parole. Et ce dont j'ai besoin, c'est d'une parole de Dieu, d'une parole d'amour, de consolation, de paix sûrement, et aussi d'une parole de vocation, d'appel, et que dans ma relation à Dieu, dans ma foi, je puisse justement trouver ce que je peux faire pour Dieu et pour les autres. Le Seigneur, parle Seigneur, Seigneur, eh bien c'est la confession de foi, c'est la confiance. Reconnaître que Dieu est Seigneur, c'est dire qu'il est celui auquel je veux obéir, celui que je veux servir justement, et celui qui me protège. Et reconnaître que Dieu est Seigneur, c'est reconnaître qu'il y a plus important que moi, que je ne suis pas le centre du monde, mais que la plus belle chose que je puisse faire, c'est pas d'être à mon auto-service, mais d'être au service de quelque chose de plus grand que moi. Parle, Seigneur. Le car, c'est l'articulation qui montre l'essentiel, qui permet de montrer qu'on peut dire par le Seigneur, parce que je suis ton serviteur qui écoute. Et si je ne suis pas à l'écoute, ça ne sert à rien, je n'entendrai rien et je ne pourrai même pas confesser ma foi. Le ton, car ton serviteur est important aussi, parce qu'il nous invite à rentrer dans une relation personnelle. Dieu n'est pas un seigneur impersonnel, un maître distant, mais Dieu est mon seigneur, je suis son serviteur. Dieu n'est pas un seigneur tout-puissant, lointain, une sorte de roi oriental et terrifiant, mais il est mon Seigneur à moi. Le serviteur, je l'ai développé plus qu'il ne le faudrait, et le écoute à la fin, la chose la plus importante de notre vie, savoir écouter. Écouter les autres, savoir écouter notre corps aussi, sûrement, nous en avons besoin. Savoir écouter la nature, savoir écouter le silence, écoutez Dieu. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Heureux celui qui sait faire de ces six mots le fondement de sa prière et de sa vie. Car, comme nous l'a dit le Christ, vous serez heureux si vous savez cela, pourvu que vous le mettiez en pratique. Amen.